Les enseignants sont réduits à des opérateurs techniques sur une chaîne de montage, ni plus ni moins.
On n'a pas assez pour joindre les fins de mois. Donc heureusement qu'il y a des associations comme ça.
C'est une chance de pouvoir être accepté dans une telle clinique.
L'idée, c'est vraiment d'améliorer l'autonomie des cyclistes.
C'est relaxant de faire du poney.
On se sent un peu délaissé, démuni et grosse perte de motivation de la part de tous les étudiants en général.
C'est un challenge que je m'offre ici, dans le monde carcéral, et une chance surtout.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombarté et Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Xavier Breton, député de l'Ain et un politologue de Lyon 2 font le bilan de l'élection présidentielle.
Reportage au musée de la mécanographie de Bourg-en-Bresse à la découverte des machines à écrire et à calculer.
Le lycée de la Plaine de l'Ain sélectionné pour un prix vidéo sur le métier d'assistant d'éducation et ils ont besoin de votre soutien.
Et tout de suite, c'est l'actu en bref.
Bourg en bref.
Emmanuel Macron réélu aussi dans l'Ain.
Le président de la République repart pour 5 ans. Dans l'Ain, il remporte 55% des suffrages exprimés et au national, c'est 58,5%. Côté participation, dans notre département, un habitant sur quatre ne s'est pas déplacé pour aller voter. À Bourg, le candidat La République En Marche a obtenu 66% des votes exprimés, contre 34% pour Marine Le Pen. Il est aussi largement en tête dans le pays de Gex, avec plus de 65% à Gex et d'Yvonne-les-Bains. Mais plus de la moitié des communes de l'Ain ont voté en majorité pour la candidate du Rassemblement National, principalement dans la Dombes et le Bugey. À Saint-Maurice-de-Réman, par exemple, vers Ambérieu-en-Bugey, Marine Le Pen remporte 67% des suffrages exprimés. Alors comme je l'ai précisé, ces chiffres prennent en compte les votes exprimés, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont mis une voix pour Emmanuel Macron ou pour Marine Le Pen. L'abstention, les votes blancs et nuls ne sont pas pris en compte. Mais si on calcule les résultats par rapport au nombre d'inscrits sur les listes électorales de l'Ain, Emmanuel Macron remporte 38% des voix des inscrits, Marine Le Pen 31% et l'abstention, le vote nul et le vote blanc cumulés représentent eux aussi 31% des inscrits. Au national, ce chiffre monte à 34%.
Les parents d'élèves d'Évennes, toujours mobilisés pour empêcher une expulsion.
Et le père d'un élève de l'école primaire d'Évennes a été expulsé il y a 10 jours en Albanie, son pays d'origine, malgré la mobilisation des parents d'élèves. Le petit Mirko, scolarisé en classe de CP à Bourg, se retrouve donc privé de son père. Les parents d'élèves ont lancé une pétition et ils vont se mobiliser le 2 mai. Ce sera devant l'école rue Racine à 16h30 et le lien de la pétition est sur notre page Facebook Radio B.
Une page se tourne pour la maison de l'écologie et de la décroissance à Bourg-en-Bresse.
Cette maison abandonnée, avenue du Maréchal Juin, était un lieu de rencontre autour de la décroissance et aussi un accueil pour les réfugiés dans le besoin depuis fin 2020. Elle appartient au bailleur la Semcoda. Les forces de l'ordre étaient venues début avril pour prévenir les habitants de leur expulsion imminente. Ils sont partis avant pour rejoindre un autre lieu au Pont des Chèvres. Ces 14 jeunes migrants originaires d'Afrique attendent pour certains une réponse à leur demande d'asile.
Le lycée de la Plaine de l'Ain qualifié pour un concours de court-métrage.
Plusieurs lycéens et un assistant d'éducation ont réalisé un film sur le rôle d'un AED. Alors vous connaissez peut-être mieux ce métier sous le nom de surveillant. Ils sont venus dans notre studio parler de ce projet. On les écoute, interviewés par Maxime en stage à Radio B.
Bonjour, Martial, je suis assistant d'éducation au lycée de la Plaine de l'Ain en Berry-en-Bugey pour ma deuxième année.
Moi, je m'appelle Lucas Genillon, je suis élève au lycée de la Plaine de l'Ain et j'ai 18 ans.
Pourquoi est-ce que vous participez à « Je filme le métier qui me plaît » ?
L'année dernière, il y a eu pas mal de mouvements sociaux, des AED et des AESH, donc accompagnement d'élèves en situation de handicap, pour la reconnaissance de ce métier, parce que c'est un métier en fait qu'on ne peut exercer que pendant 6 ans, encore aujourd'hui, par tranche de CDD d'un an renouvelable. Donc, ce n'est pas vraiment un métier. Donc, on a fait des grèves, on a fait des manifestations. Et puis, je me suis dit que essayer de trouver une autre forme que la grève pour parler de ce métier, c'était une bonne chose. Il y avait un petit côté revendicatif dans la réalisation de ce court-métrage. La démarche, elle vient de là aussi. Et donc, d'une pierre deux coups, j'ai dit, tiens, j'aime mon métier. Il y a une section cinéma audiovisuel au lycée. Voilà, on l'a fait.
Et Martial, vous êtes assistant d'éducation, AED, ou surveillant de lycée de la Plaine de l'Ain. Vous préférez quoi comme nom ?
Je suis assez attaché à assistant d'éducation, Parce que ça met un peu plus en valeur le côté justement éducatif que surveillant. Alors c'est vrai que par le passé c'était vraiment des tâches de surveillance, aujourd'hui ça a un peu évolué. On fait du soutien scolaire, on fait de l'accompagnement, on fait du suivi d'élèves en renfort de nos conseillers d'éducation, conseillers principaux d'éducation.
Comment est-ce que vous avez réalisé du coup ce court-métrage ?
Ouais, on a discuté pendant des heures de qu'est-ce que assistant d'éducation. Martial nous a parlé d'anecdotes qu'il a vécues dans son métier pendant ces 2 ans aux mains d'assistant d'éducation. Et ensuite, on a commencé à s'imaginer comment est-ce qu'on voudrait montrer ça en 3 minutes, parce que 3 minutes, c'est le temps imparti.
C'est la contrainte. Ouais,
voilà, c'est la contrainte. Ouais. Donc au début, on s'est dit, on va raconter des anecdotes. Ensuite, on s'est dit... on va faire des échanges avec élèves, assistants d'éducation. Et puis après, on s'est aussi dit que, en fait, finalement, fictionner un peu le métier, ça pouvait être intéressant. Ça permettait de montrer des anecdotes tout en mettant du rythme. Voilà.
Moi, à la base, je me suis dit, on va faire une journée. Voilà, il fallait mettre un cadre. Et on s'est dit, on va partir sur une journée d'un assistant d'éducation, une journée dans la peau d'un assistant d'éducation. Et je me suis beaucoup nourri entre collègues. On a un groupe WhatsApp, en fait, pour s'échanger toute la journée des informations. Donc c'est à peu près, je dirais, entre 300, 400, 500, 600 messages par jour qui sont échangés sur ce groupe entre assistants d'éducation. On a vraiment puisé là-dedans, en fait. Donc c'est ce qui fait, à mon avis, qu'on est au plus près du réel et du concret, en fait. Et qu'on est dans une espèce de fiction, parce qu'on a voulu garder ce côté cinématographique, mais qu'on est dans le docu quand même, parce qu'on puisse vraiment, si vous avez l'occasion de le voir, le court-métrage, tous qui m'écoutez là, vous verrez qu'il y a des notifications. Ces notifications sont des notifications réelles, en fait. La notification, les premières, je les ai reçues le matin même, en fait. Tiens, là j'ai une gamine qui est en crise d'angoisse, elle est allongée dans le couloir... Là, on est à la bourre, à la cantine, il faut venir filer un coup de main.
Un peu comme un talkie-walkie. En fait.
Voilà, certains assistants d'éducation fonctionnent avec des talkie-walkie. Nous, on fonctionne avec un groupe WhatsApp. Et donc, c'était vraiment la source d'inspiration de la matière de ce court-métrage, en fait. Voilà.
C'est ça. Et puis, après, tournage, montage. Montage, ça a duré 3 semaines.
Ouais, 3 semaines, c'était la partie la plus...
compliquée.
La compliqué. Plus compliquée. Ouais. Ouais.
Et on écoute tout de suite un extrait de leur court-métrage.
Il est 7h sur Radio C, bonjour à tous, comment ça va mon Ramix?
Bah écoute, ça va nickel, toujours content d'être en direct de Radio C. Mais alors, qu'est-ce qu'on a prévu aujourd'hui?
Aujourd'hui on va parler des films qu'on kiffe et...
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. C'est pour signer un retard, s'il vous plaît.
Ok, tu peux mettre ton masque au micro s'il te plaît?
Ouais, ça marche.
Karim,
c'est ça.
C'est tout bon, allez, tu peux aller en cours.
Merci, passez une bonne journée.
Toi aussi.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Comment elle s'appelle ?
Stéphie.
Stéphie, ça va Stéphie ? Respire, respire, on va s'occuper de toi. Enlève ton masque, respire. Ça t'arrive souvent ?
Oui, ça arrive.
Ouais, ça arrive ? Ouais, ok. On va s'occuper de toi.
Non.
Serre ma main. Voilà. Très bien, respire.
3 minutes, c'est trop court pour vous montrer toutes les missions qu'assurent quotidiennement les assistants d'éducation. Véritable lien au cœur du système éducatif, ils revendiquent pourtant, aujourd'hui encore, la reconnaissance d'un métier qui leur plaît tant.
Martial nous explique ce que le projet a apporté au lycée et aux élèves.
À travers la réalisation de ce projet-là, ils ont mieux compris notre métier et par la suite, l'ensemble des élèves aussi, parce que ça a vraiment créé énormément de liens au lycée. On m'a demandé des autographes au lycée quand même. Donc moi qui ne suis pas comédien, qui suis AED, passionné par mon métier, j'ai joué le jeu. Mais voilà, et les profs et les parents d'élèves, et l'administration a joué le jeu aussi, la direction du lycée a joué le jeu. Et il y a vraiment eu un vrai engouement autour du projet. Voilà. Derrière, ce qui est aussi gratifiant, je pense, pour nous tous, c'est que ça a été partagé sur... comme je vous disais tout à l'heure, les AED sont mobilisés pour la reconnaissance de leur métier. Et donc, on a pu partager ça avec tous les AED de France, en fait. On a été relayés par la Coordination Nationale des Collectifs d'AED.
Ah oui.
Et on a eu énormément de retours d'AED qui nous ont dit, mais c'est exactement ça, quoi. Donc, c'est la plus belle satisfaction et récompense que... Ouais. Enfin, en tout cas, moi, je puisse avoir, c'est que les gens qui font ce métier se reconnaissent dans le court-métrage.
Martial, Lucas et tous les participants au court-métrage ont besoin de votre aide pour remporter un prix. Vous pouvez trouver le lien sur la page Facebook de Radio B ou dans le podcast de l'émission sur le site radio-b.fr, rubrique « À vous les Burgiens ». Il suffit de cliquer et de s'inscrire pour mettre un j'aime sur la vidéo du lycée de la Plaine de l'Ain et le court-métrage s'appelle « Pionnier ». L'équipe du film ira au Grand Rex fin mai et ils repartiront peut-être avec une récompense.
Les médiathèques de Bourg-en-Bresse ferment cette semaine.
Du 26 au 30 avril, toutes les médiathèques de Bourg seront fermées. Les services sur Internet et par téléphone ne seront pas accessibles pendant cette période. Un nouveau logiciel informatique va être installé. Tous les emprunts seront prolongés automatiquement jusqu'au 7 mai.
Deux minutes, une actu.
Maxime, bonjour.
Bonjour.
Pour ton stage à Radio B, tu as choisi de parler du revenu universel de formation.
Oui, et ce sujet a été abordé par Emmanuel Macron et Marine Le Pen pendant le débat du second tour mercredi dernier.
Alors c'est quoi ce revenu ?
Ce revenu, c'est de l'argent donné aux étudiants pour vivre décemment sans avoir à travailler à côté. Donnons de l'argent aux jeunes, ça pourrait nous profiter à tous. C'est l'idée développée par des universitaires américains. L'État danois et nos politiques s'en sont inspirés. Au Danemark, pour chaque étudiant ou apprenti sortant du cocon familial, 800 euros sont versés mensuellement jusqu'à l'arrêt des études. Chez nos voisins nordiques, le taux de chômage des jeunes est d'environ 10% en janvier 2022 contre 16% des 15-25 ans en France. Ce revenu serait bénéfique à la société française. Il permettrait aux jeunes étudiants de se concentrer sur leurs études sans avoir besoin d'un petit job pour vivre.
Pourquoi ce revenu universel de formation divise ?
Les économistes, comme le français Thomas Piketty, le voient comme un outil de redistribution des richesses. Au contraire, l'essayiste français Julien Rochdy, ancien membre du Front National, imagine que celui-ci créerait un futur peuplé de fainéants.
Alors, qu'en pensent les jeunes ?
Je suis allé à leur rencontre dans les rues de Bourg-en-Bresse.
On aurait plus de matière à pratiquer ce qu'on a envie de faire, quoi.
Alors, pour les étudiants, oui, ça aiderait. Oui, oui.
Ouais, bien sûr. C'est un complément, bien sûr.
En fait, je pense que ça dépend des personnes, comment ils vivent, en fonction de leurs revenus, quoi.
Et qu'attendez-vous personnellement du gouvernement ?
Il y a quand même un peu de désespoir, parce que là, on se retrouve il y a 5 ans en arrière avec Marine et Macron. Si la fac devient payante, déjà, à partir de ce moment-là, on est dans la merde.
Moi, personnellement, je suis boursière. Du coup, ça me suffit. Mais je sais qu'il y a des étudiants qui sont vraiment en situation de précarité. Et là, à la fac, il y a une banque alimentaire pour les étudiants, justement. Et donc c'est pour des courses gratuites, donc ça a été mis en place et je trouve ça vraiment bien. Ce serait mieux si ça venait de l'État.
Merci Maxime.
Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire.
Mes chers compatriotes, je serai le président de tous les Français.
Parce que c'est notre projet !
L'invité de Radio B.
Avec moi en studio, Xavier Breton, bonjour.
Bonjour.
Député de l'Ain et conseiller régional, Les Républicains. Fin 2021, vous avez présidé une mission parlementaire sur l'abstention. Et avec nous par téléphone, Romain Melt, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Lyon 2. Vous êtes aussi chercheur associé à l'ENS à Lyon. Merci à tous les deux d'avoir de nouveau accepté d'être nos invités à Radio B. En mars dernier, nous avions parlé de l'abstention aux différentes élections. Nous sommes aujourd'hui le 25 avril, au lendemain du second tour. Emmanuel Macron, candidat de La République En Marche, a été réélu pour un deuxième mandat avec un peu plus de 58% des voix face à Marine Le Pen. Pour la première fois, la candidate du Rassemblement National franchit la barre des 40% avec un peu plus de 41% des voix. Xavier Breton, quelle a été votre première réaction à l'annonce des résultats ?
Il y a deux résultats. Il y a d'abord les résultats du premier tour qu'il faut effectivement entendre aussi avec une France qui est fracturée, et avec trois Frances, hein, une France plutôt urbaine, métropolitaine et de catégorie sociale professionnelle plutôt favorisée, qui vote plutôt Emmanuel Macron, une France plus rurale qui se retrouve dans Marine Le Pen, et une France plutôt des quartiers qui est avec Jean-Luc Mélenchon. Et ces trois Frances qui ne se parlent pas, c'est ça le problème. Alors ensuite, il y a eu effectivement le deuxième tour, on a pu voir qu'il y avait deux France qui étaient aussi là l'une face à l'autre et que ce schéma ne correspond pas aussi au souhait de beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'on a vu à nouveau l'abstention monter et que finalement, même ceux qui ont voté, il y a eu beaucoup plus de votes par défaut, de votes contre quelque chose que de votes pour. Et ça, c'est effectivement un peu inquiétant pour les semaines et les mois à venir.
Romain Meltz.
Finalement, la campagne a été très courte, la pré-campagne, à cause d'abord de la pandémie, et puis de ses soubresauts, puis ensuite de la guerre en Ukraine. Ce qui fait qu'on a eu des bouleversements assez forts en assez peu de temps. Et donc, je pense que c'est un résultat qui est à la fois prévu depuis très longtemps, puisqu'on nous dit depuis 5 ans, on va vers une répétition de 2017. Donc, à la fois, c'est extrêmement prévisible. Et en même temps, les résultats sont surprenants parce que les évolutions des dernières semaines étaient beaucoup plus fortes que ce résultat, finalement, assez prévisible, effectivement.
Alors, un second tour marqué aussi par une forte abstention, 28% en hausse par rapport à 2017, qui était alors autour de 25%, et la plus forte des dernières élections présidentielles. Il faut remonter à 1969 pour retrouver une abstention aussi élevée. Elle était alors de 31%. Romain Meltz, l'abstention était déjà en hausse au premier tour, un peu plus de 26%. Vous attendiez un score encore élevé pour ce second tour ?
Si vous voulez, notre système politique, vous savez, avec un scrutin majoritaire uninominal à deux tours, ça a façonné la Ve République et ça a conduit quand même à deux partis traditionnellement à droite, deux partis à gauche, et ça a fonctionné très bien comme ça, avec des désistements mutuels et, vous voyez, deux tours et au deuxième tour, l'un contre l'autre. Bon, là, on voyait très bien qu'au premier tour, on avait trois partis. Vous avez une espèce de bloc central, la droite radicale ou l'extrême droite, et puis une gauche radicale ou l'extrême gauche. Et donc ça, vous voyez, ça pose forcément un problème dans un système où vous avez au deuxième tour que deux candidats. Et donc la question de comment faire pour que le troisième bloc, celui qui n'est pas représenté au deuxième tour, se retrouve dans l'offre du deuxième tour, forcément, il y avait une grosse difficulté. Et donc, cette abstention en relative hausse, ça ne m'a pas du tout surpris.
Xavier Breton, quel est votre regard sur la participation à cette élection ?
Ça vient conforter la croissance continue de l'abstention depuis des années. Il y avait eu effectivement un accident en 69, lors du face-à-face entre Georges Pompidou et Alain Poher à l'époque, parce que la gauche était absente. Mais depuis, on constate effectivement que ça s'était normalisé. Et là, depuis maintenant deux élections présidentielles, on a des abstentions records. Et ces abstentions records ne sont pas dues uniquement au fait qu'il n'y a que deux candidats au deuxième tour de la présidentielle, puisqu'on les constate dans les autres élections. Donc il y a bien une tendance structurelle à l'abstention qui existe dans notre société, avec des citoyens qui s'éloignent du débat politique parce qu'ils ne s'y retrouvent pas, parce que l'offre politique n'est pas satisfaisante, parce qu'il y a effectivement des grands discours qui sont faits sur des sujets comme le climat, l'environnement, sur la sécurité, etc. Mais que dans la réalité des choses, de leur vie quotidienne, ils voient bien qu'il y a peu de choses qui changent. Et ça, cette élection présidentielle, là-dessus, s'inscrit dans le mouvement qu'on a pu constater avec les élections locales. C'est un taux record qui vient déjà après un autre taux record qui était celui de 2017 et qui vient avec les taux records qu'on a eu aux élections départementales, régionales, etc. Donc malheureusement, il n'y a rien de nouveau et il n'y a pas eu de sursaut démocratique à l'occasion de cette élection présidentielle. Et il faut souhaiter qu'effectivement, on ait une vraie réflexion. Et tout de suite, en début de mandat, ça ne se fait pas en fin de mandat avec des promesses de référendum, de ceci, de cela. Il faut que ça soit vraiment un sujet qui soit traité très rapidement, de telle façon à ce qu'on retrouve des pistes pour redonner un peu cette envie démocratique qui manque aujourd'hui dans notre pays.
En 2002, Jacques Chirac, opposé à Jean-Marie Le Pen, avait recueilli un peu plus de 82% des voix, contre un peu plus de 17% pour Jean-Marie Le Pen. En 2017, Emmanuel Macron avait été élu avec environ 66% des suffrages contre environ 33% pour Marine Le Pen. Et pour la présidentielle 2022, Emmanuel Macron vient d'être réélu face à Marine Le Pen avec 5,5 millions de voix d'écart. Alors qu'est-ce que ces résultats nous apprennent, Xavier Breton ?
Ça nous apprend que la thématique du Front républicain fonctionne de moins en moins. on ne peut pas dire d'une candidate et d'un parti qui ne sont pas républicains, les laisser concourir à une élection. Enfin, je veux dire, c'est intenable comme position. Soit c'est un parti qui est dangereux pour la démocratie, il faut l'interdire, soit il participe à la démocratie. Mais ce double discours, les gens ne sont plus dupes, ça ne marche plus, ça marche de moins en moins. Après, ils ont un vote en conscience pour dire est-ce que telle personne est capable d'exercer la fonction présidentielle. Et pour Marine Le Pen, ils répondent en grande majorité non. Mais on n'est plus dans cette logique du Front républicain, la menace pour la démocratie, etc. Et les citoyens se rendent bien compte qu'on se moque un petit peu d'eux. Donc eux, ils n'ont pas répondu sur ce sujet-là. Ils ne sont pas rentrés dans cette logique-là. Mais j'ajoute qu'au-delà du vote qui s'est fait sur les deux candidats, on a parlé de l'abstention, mais il faut aussi parler des votes blancs et des votes nuls. Parce qu'il y a eu 3 millions de personnes, 3 millions de nos concitoyens qui sont allés voter et qui n'ont choisi ni Emmanuel Macron ni Marine Le Pen. Et ceux-là, effectivement, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages exprimés. Je pense qu'il faut vraiment maintenant qu'on puisse les comptabiliser, qui auraient vraiment représenté beaucoup plus la diversité de la société française par rapport à cette élection. Ça aussi, je pense qu'il faut en tenir compte dans les années à venir.
Romain Meltz, alors, sur cette question encore du vote blanc et le fait d'en tenir ou pas compte lors des élections ?
La comptabilisation comme suffrage exprimé des votes blancs ne nous indiquerait pas plus clairement quelles sont les directions que les Français souhaitent donner à la vie politique. Le peu d'études dont on dispose sur le vote blanc indique qu'il y a des ressorts très différents sur ce vote blanc. C'est, dans certains cas, c'est des gens qui ne se retrouvent pas dans les candidats. Dans d'autres cas, c'est des gens qui ne se retrouvent pas dans le système politique d'une façon générale, mais expriment leur désir de voter malgré tout. Enfin, c'est très difficile d'en tirer des indications sur la politique à mener ensuite.
Les deux partis historiques, le Parti socialiste et les Républicains, n'ont pas atteint les 5% au premier tour. En 2017, le second tour a opposé Emmanuel Macron à Marine Le Pen. 2022, même affiche. Romain Meltz, assistons-nous à la naissance d'un nouveau monde politique français ?
D'un côté, on pourrait se dire, bon, ben voilà, Emmanuel Macron est un météore, c'est une espèce de Mozart de la politique dont personne n'avait jamais entendu parler. Il devient ministre de l'économie, puis il parvient 8 ans plus tard à se faire réélire. Que ni Nicolas Sarkozy, ni François Hollande, qui sont des professionnels de la politique, n'avaient réussi à faire. Et donc on peut se dire, j'imagine que dans les rêves des partis traditionnels, Europe Écologie Les Verts, l'EPS et les Républicains, dans les rêves, on se dit, voilà, c'est une parenthèse qui va se refermer. Et une fois que donc il n'aura plus la possibilité juridique de se faire élire, la parenthèse va se refermer et qu'on va repartir sur un clivage gauche-droite traditionnel. Je pense que ce serait un peu optimiste de la part de ces acteurs politiques traditionnels d'espérer que la parenthèse du Front National contre la République en marche, quel que soit le clivage que ça révèle pour de vrai, que cette parenthèse se referme une fois que Emmanuel Macron devra quitter la scène politique.
Xavier Breton, alors, est-ce que vous rêvez de la fermeture de cette parenthèse « La République en marche » ?
Il y a une vraie interrogation entre deux options. Est-ce qu'on est dans un phénomène de révolution complète du paysage politique qui passe par une phase de décomposition et qui va aller vers une recomposition ? Ou est-ce qu'on est finalement avec des Français qui aiment la politique, qui la connaissent et qui font confiance à ceux qui la pratiquent depuis un certain temps. Et à l'occasion de l'élection présidentielle, on peut avoir finalement aussi, ça peut paraître paradoxal, mais cette lecture, de dire finalement, ça a été les trois candidats qui sont arrivés en tête, c'était ceux qui avaient le plus l'habitude de l'élection présidentielle. Et donc, ça serait un vote, d'une certaine manière, conservateur aussi qu'ont fait les Français. Pour moi, il y a un point d'interrogation.
Romain Meltz, c'est une réaction ?
Ce qui rend les choses difficiles, je trouve, à analyser, c'est comment ça se fait qu'on passe d'une élection comme les régionales en 2021, il n'y a quand même pas si longtemps que ça, où on est vraiment dans un système où on a l'impression que le clivage gauche-droite, PS, les Républicains est complètement préservé, avec absolument aucune manifestation d'une force politique émergente comme La République En Marche, vous voyez, ou par exemple dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, le candidat LRM ne peut même pas se maintenir au deuxième tour. On passe donc une élection où on a l'impression que l'ancien monde est totalement là, à une élection qui est peut-être plus politique, qui celle-là, la présidentielle de 2022, où on ne reconnaît rien de ce qui s'est passé en 2021, en juin, avec les départementales et les régionales.
Et comment on peut expliquer justement cette différence ?
Il me semble que ceux qui se sont mobilisés étaient ceux qui avaient un intérêt pour ces élections et ils étaient finalement très liés aux partis, aux élections 2015 qui avaient procédé à ce découpage du territoire entre région de gauche et région de droite. Et que pour la présidentielle, on a une configuration extrêmement différente où les enjeux politiques redeviennent ce qu'ils sont devenus depuis maintenant plus de 5 ans, hein, c'est-à-dire quelque chose autour de la possibilité de sauver la France par son insertion dans le jeu international à tous les points de vue, ou au contraire l'impossibilité de sauver la France par l'insertion dans les flux mondiaux et la nécessité de se refermer. Et je pense que c'est ce clivage-là qui n'est pas intégré par l'ancien monde gauche-droite, PS, PC, UDF, RPR, si vous voulez.
Je voulais revenir sur un point par rapport à l'abstention. Il y a eu une abstention très importante chez les plus jeunes. Au premier tour, 41% des 18-24 ans se sont abstenus. Romain Meltz, comment vous expliquez ce chiffre ?
Il me semble que la tranche d'abstention des 25-34
était plutôt vers 45-48, oui.
C'est plutôt la tranche d'après avec une abstention un peu plus forte qui me paraît un peu inquiétante parce que là, c'est le moment d'insertion réelle dans la vie sociale avec un emploi, la mise en ménage des enfants. Et le fait que cette tranche d'âge s'abstienne plus me semble indiquer le fait qu'il y a effectivement une impression d'impossibilité de trouver une réponse à ces questions personnelles dans le vote. Donc il y a effectivement des enjeux quand même très importants pour essayer de faire qu'il y ait une connexion entre sa vie quotidienne et l'impression que son vote va changer quelque chose à sa vie quotidienne ou pour ses valeurs.
Xavier Breton.
Auparavant, on savait que la démocratie, ça faisait partie de l'ensemble pour être un citoyen. Aujourd'hui, d'une certaine manière, on peut être citoyen sans avoir le vote. Et ça doit nous interroger effectivement par rapport à cette jeunesse qui ne considère plus le vote comme étant un des facteurs de la démocratie. Parce qu'effectivement, la démocratie, c'est aussi le débat, c'est les change, c'est l'engagement associatif, voilà, ça ne se limite pas au scrutin. Mais c'est justement ce qui devrait être le cœur de la démocratie qui aujourd'hui se retrouve d'une certaine manière en périphérie dans la vie de ces plus jeunes, on va dire. Hein, et ça doit nous interroger. Effectivement, on ne peut pas se contenter de voir cette abstention monter ou de se rassurer en disant on avait prévu une baisse de 5 points, ça n'a été que 2 points. N'empêche qu'il y a la baisse. Voilà, et ça, c'est inquiétant. Et cette tendance, elle est continue depuis des années, des décennies. Et ça implique effectivement quand même une remise en question très forte.
Romain Meltz, vous partagez cette remise en question nécessaire ?
Oui, enfin, c'est un travail considérable qui est infaisable en un quinquennat. Le fait de clarifier l'action politique de ce pays envers les citoyens, hein. Qui fait quoi ? Est-ce le département, la ville, la communauté de communes ? Est-ce que c'est l'État ? Enfin, vous voyez, il y a un énorme travail à faire qui ne sera pas fait, hein, mais qui devrait être fait de remise en clarté de l'action publique, de manière à ce que le citoyen n'ait pas l'impression d'une boucle décisionnelle incroyablement complexe, que parfois même les acteurs politiques ne maîtrisent pas eux-mêmes, et qui fait qu'effectivement le lien se détend entre leur attention à la politique et la politique. Et donc c'est un travail qui serait énorme, qui est lié au fait que la décentralisation est arrêtée en milieu de guet, et qu'au milieu de guet, personne n'est à son aise pour manœuvrer.
Messieurs, merci. Xavier Breton, merci. Député de l'Ain et conseiller régional Les Républicains, et Romain Meltz, professeur de sciences politiques à l'Université Lyon 2. Les prochaines élections sont dans quelques semaines, les législatives pour élire les 577 députés. Ça sera les 12 et 19 juin. Et si vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes électorales, vous avez jusqu'au 6 mai pour le faire. Vous vous sentez comment là avant l'arrivée de monsieur le député ?
Stressé. On s'échauffe tranquille. Respirez bien. On pousse.
En reportage avec Radio B.
Inès, vous avez visité le musée de la mécanographie de Bourg-en-Bresse.
C'est le seul musée du genre en France et en Europe et il regorge de trésors d'un autre temps. Bien loin de nos smartphones et de nos ordinateurs, à l'époque, tout se faisait par des machines à écrire et à calculer. 300 objets sont exposés et vous pouvez même les tester sur place. On écoute Jacques Berthoux, président du musée.
Alors la mécanographie, c'est quoi ? Ben, c'est une activité qui existait jusque dans les années 90. Qui était une activité qui consistait à vendre et entretenir les machines de bureau. Machines de bureau, c'est-à-dire les machines d'écrire, machines calculées, machines comptables, facturières, duplicateurs, machines à dicter, déjà à cette époque. Et puis duplicateurs, je l'ai dit aussi, parce qu'il n'existait pas de photocopieur avant les années 50, ou très peu, ou des systèmes très archaïques. L'activité existait depuis les années 1890 environ, depuis que les machines à écrire existent, il a été créé des entreprises qui vendaient donc ce matériel et qui après l'entretenaient pour des entreprises, pour des administrations, pour des professions libérales, pour des écoles, pour comprendre l'enseignement. Enfin, tout ce qui était utilisateur de machines de bureau. Ça, c'est une activité donc, qui s'est éteinte dans les années 90 à l'arrivée des micro-informatiques. Qui a vraiment mis par terre une activité qui était composée de nombreuses entreprises, notamment par exemple sur Lyon, il y avait entre 70 et 80 entreprises comme ceci.
Jacques Berthoux commence la mécanographie dans les années 50. Il débute en tant qu'alternant à Lyon. Pendant sa mobilisation pour la guerre d'Algérie, beaucoup d'évolutions ont lieu dans la mécanique. Et à son retour, il se met à jour et part travailler à Bourg-en-Bresse à son compte avec un collègue. Plusieurs années plus tard, il crée le musée de la mécanographie avec un ami, en 2008, rue Bourmeilleur à Bourg. Puis en 2016, il s'installe dans des locaux plus vastes, boulevard de Brou. Depuis, Jacques Berthoux fait des visites tous les mercredis après-midi. On le suit dans sa visite en commençant par les débuts de la machine à écrire.
La première a existé en 1714, c'est un Anglais, Henry Mill. Il a été quand même breveté par la reine Anne Stuart. C'est la seule qui a pu constater à cette époque que cette machine avait existé, mais il a laissé ni plan ni modèle, a disparu. Mais elle a quand même constaté, elle lui a attribué un brevet numéro 395. Estime, nous, dans la mécanographie, que c'est vraiment la première machine qui est sortie. Et ensuite, c'est un Marseillais, Cocorico. Alors là aussi, il n'y avait plus de modèle, mais on a un collègue collectionneur qui a retrouvé les plans et qui a reconstruit la machine. C'est quelque chose de merveilleux. Et ça, c'était en 1833. Là, voilà. Cette machine constituait de tiges que l'on enfonçait. Au bout des tiges étaient gravés les caractères. Donc, vous avez tout l'alphabet, les ponctuations, les chiffres. On enfonçait la tige correspondante au caractère qui était marqué ici, sur le support, on ne voit pas, de façon à venir taper sur le papier qui sortait dessous. Il n'y avait pas de ruban, donc c'était un carbone qui existait déjà, qui permettait de faire des textes. Alors ceci étant aussi amovible, c'était complexe. Hein. Et donc on fonçait, c'était la première utilisation de cette idée de pouvoir trouver une machine qui utilise les caractères de Gutenberg, mais au bout de levier et de bras, voilà le premier. Alors ça, il s'appelait Progin, ce Marseillais. Hein. Et ensuite, c'est un Italien, Ravizza. Alors Ravizza, lui, il a trouvé la première machine. Il n'y en existe plus que deux dans le monde. Elles sont, je crois, en Italie, bien sûr. Alors lui qui a inventé la machine d'écrire, qui permettait d'utiliser des touches, au lieu d'avoir des leviers. Et comme il n'avait pas de touches, il utilisait des touches de piano. Mais ce qui est merveilleux, c'est que la mécanique qu'il a sortie avec, elle a été reprise par tous les constructeurs. Je vais vous montrer tout de suite comme ça. Voilà, une machine d'écrire. On a enlevé le chariot. Le chariot, c'est ça, c'est ce qui se promène avec le papier. Hein. Lorsqu'on enfonce une touche, le caractère monte avec le bout de sa tige. Et vous avez le ruban qui arrive aussi. Hein. Et vous avez, je décompose, la frappe, tac, et tout derrière l'échappement. Ce qui pousse l'échappement, l'espacement entre les caractères. Et en même temps aussi, vous avez l'avancement du ruban. Donc, avec une seule frappe, vous avez quatre mécanismes. Sans que ça durcisse la touche par un système de levier de transmission qui permettait de taper sans problème, en tout en douceur. Voilà donc le principe de la machine à écrire, tel que Ravizza l'a inventé. Alors cette machine était livrée à cette époque, en 1876, avec ce décor. Par exemple, Tolstoï avait cette machine pour taper ses romans. Et ces décors, c'était des gens qui étaient très fortunés, qui pouvaient se payer, parce que chaque machine avait un décor particulier à la demande du client, très personnalisé. Mais comme ça freinait quand même un petit peu la vente, ils ont supprimé toute cette décoration pour arriver à cette machine, qui est la même mécanique, mais simplifiée. Là, voilà la troisième. Lorsqu'on enfonce la touche, celle-ci est dotée d'un tirant, et le tirant, on le retrouve là, qui vient catapulter le caractère, parce que cette machine écrit de bas en haut. Et lorsqu'on a fini de taper, on vient soulever le chaou pour voir ce qu'on avait tapé. C'était la technique de l'époque. N'oublions pas, on est en 1800 et quelques, hein. Donc c'était déjà un progrès extraordinaire de pouvoir taper son courrier d'utiliser la plume d'oie.
Et à la fin du 19e siècle, le clavier QWERTY est créé, puis il se change en AZERTY en Europe. Cette répartition des touches évite alors à la machine de se bloquer en espaçant les lettres les plus utilisées. D'autres mécanismes sont à découvrir avec une évolution progressive vers les machines à écrire que l'on a pu connaître avec la feuille devant nos yeux, puis celles qui fonctionnent grâce à l'électricité. Deux machines exposées ont même été utilisées pour le film populaire avec Romain Duris et Déborah François. On écoute un extrait.
La seule chose que je fais vraiment bien, c'est taper à la machine.
Enfin, taper à la machine, c'est le minimum pour une secrétaire.
Participer à un concours.
Pas participer, gagner.
Vous pensez vraiment que la vitesse dactylographique est un sport ?
Et Jacques Berthoud, le président du musée, réparait certaines des machines exposées. Il nous explique les problèmes les plus souvent rencontrés.
La machine qui est bloquée par une pièce ou par un corps étranger. Par ici, le caractère qui part, la barre à caractère qui casse, une pièce qui casse, un ressort qui saute, qui se barre, qui casse. C'est pour ça qu'il y a des outils comme ça, qui est un crochet à ressort qui permet de remettre un ressort à l'intérieur de la machine. Comme ceci, c'est un tournevis qui permet de coincer la vis pour aller la mettre à l'intérieur de la machine. C'était très, très fin comme application technique, très précis. Il fallait donc avoir de la patience.
Dans une autre salle du musée, des machines à calculer sont à découvrir avec des mécanismes très ingénieux. Elles pouvaient même faire des divisions. Tous les objets exposés ont été donnés par des particuliers. Et comme tous les mercredis, Jacques Berthoud est rejoint par un jeune bénévole qui s'est découvert une passion pour ces machines qu'il n'avait pourtant jamais côtoyées.
Bon, je m'appelle Jean-Daniel et puis je suis lycéen. Je suis en classe de terminale et puis je suis bénévole au musée de la mécanographie.
Donc comment t'as découvert ce musée ?
Alors la première fois que je suis venu, c'était aux journées du patrimoine. Je suis venu avec ma famille et puis ça m'a vraiment beaucoup plu. Ça m'a vraiment intéressé de voir comment ça fonctionnait avant l'informatique. Petit à petit, du coup, j'ai pu faire des visites et puis préparer quelques machines aussi. Donc voilà.
Et quel est peut-être l'endroit du musée que t'aimes particulièrement ?
J'aime bien les machines à calculer, notamment la petite Curta, voilà, parce que c'est vraiment un bijou de la mécanique. C'est vraiment très très intéressant de voir comment on arrive à calculer dans des trucs aussi petits, quoi.
Et pour découvrir la Curta et les autres machines du musée de la mécanographie, c'est tous les mercredis après-midi de 14h30 à 18h. Réservation auprès de l'Office de tourisme de Bourg-en-Bresse. C'est 5 euros pour les adultes et 3 euros pour les enfants.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute.
Et on se retrouve lundi prochain, 18h sur le 90FM. Belle semaine sur nos ondes.
Les enseignants sont réduits à des opérateurs techniques sur une chaîne de montage, ni plus ni moins.
On n'a pas assez pour joindre les fins de mois. Donc heureusement qu'il y a des associations comme ça.
C'est une chance de pouvoir être accepté dans une telle clinique.
L'idée, c'est vraiment d'améliorer l'autonomie des cyclistes.
C'est relaxant de faire du poney.
On se sent un peu délaissé, démuni et grosse perte de motivation de la part de tous les étudiants en général.
C'est un challenge que je m'offre ici. Dans le monde carcéral, il y a une chance, surtout.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombarté et Audrey Radondi.